Bonjour tout le monde. Alors, voici une histoire de science-fiction. Elle est de Bill Brown, elle s'appelle Couvée astrale. Dès que Ward Rafferty aperçut la vieille ferme des Alsop, son long nez fouineur d'as du reportage subodora un canular. Pas d'attroupement de paysans attirés par la curiosité, pas d'ambulance. Il laissa la voiture de presse sous un noisetier, dans l'allée d'accès et s'immobilisa un instant, enregistrant les plus menus détails avec cette puissance d'observation qui avait fait de lui le meilleur reporter du Times. La ferme Alsop était un bâtiment de 2 étages, d'un brun délavé par les intempéries, aux fenêtres encadrées d'un filet de peinture crème. Devant s'étendait une pelouse envahie par les mauvaises herbes. Derrière, on entrevoyait la grange, le poulailler, des clôtures rapiécées de planches et de bouts de tuyaux. La barrière de l'entrée pendait sur un seul gond, mais on pouvait l'ouvrir en la soulevant. Rafferty la franchit et escalada le perron en prenant garde aux marches démolies. Mr. Alsop sortit pour l'accueillir. « Bonjour, fit-il, comment que ça va ?» Rafferty jeta son chapeau en arrière, comme il avait toujours accoutumé de le faire avant de proclamer « Je suis Rafferty, du Times. » La plupart des gens à qui il s'adressait connaissaient ses articles, et il lui était doux de guigner l'expression de leur physionomie tandis qu'il prononçait la femme magique. « Rafferty, fit bonnement Monsieur Alsop, et Rafferty dut reconnaître qu'il ne lisait pas le Times. « Je suis reporter, reprit Rafferty. On nous a téléphoné pour nous dire qu'il était tombé un avion quelque part par ici. » Mr. Alsop parut réfléchir, puis secoua lentement la tête. « Ma foi, non, dit-il. » Rafferty avait vu du premier coup que Mr. Alsop n'était pas un esprit très vif. Aussi laissa-t-il du temps, tout en l'étiquetant à part soi, « Yankee taciturne. » Mr. Alsop réitéra gravement sa réponse. « Non. » La porte grillagée à cause des mouches grinça et Mrs. Alsop sortit à son tour. Mr. Alsop était toujours plongé dans un abîme de réflexion. Rafferty, qui la jugea un peu plus éveillée que son mari, répéta son petit discours à son intention. Mais elle proféra un « non » modulé exactement sur le ton de celui de son conjoint. Rafferty se détourna, une main sur la rampe, prêt à redescendre. Évidemment, c'était une simple blague, c'est très fréquent. Un inconnu avait téléphoné au journal qu'un aéroplane suivi d'une traînée de feu avait piqué à la verticale dans votre pré ce matin. Le visage de Mrs. Alsop s'illumina. « Oh, oui, mais c'était pas un accident, et puis c'est pas un avion, je veux dire, il a pas d'aile. » Rafferty s'arrêta sur la première marche, un pied en l'air. « Comment dites-vous? Un avion s'est posé et il n'a pas d'aile. » « Eh oui, c'est ça, Monsieur Alsop, il est là. » Dans la grange, à cette heure, il y a des gens qui cognent sur du fer avec un marteau. Tiens, tiens, pensa Rafferty, on dirait tout de même qu'il y a quelque chose. Ah, fit-il, je vois. Un hélicoptère. Mrs. Alsop fit posément un signe négatif. Non, je crois pas que c'est un comme vous dites. Il n'a pas de ses tourniquets au-dessus. Mais vous n'avez qu'à aller le regarder dans la grange. Conduis-le, Alfred. Dis-lui de rester sur le gravier vu qu'il y a de la boue. « Allez, venez, dit Mr. Alsop tout guiré. Je ne serais pas fâché de l'avoir encore, cette mécanique. » Rafferty contourna la maison à la suite de Mr. Alsop. « J'ai vu, se disait-il, bien des gens bizarres. J'ai vu des toqués, des maboules, des dingos et des imbéciles. Mais pour ce qui est du simple abrutissement, au couple Alsop, le pompon. »« Pour une année à poussin, fit Mr. Alsop, c'est une année à poussin. Rien que de la bonne race, des minorques. J'ai fait venir comme ça des jeunes coqs et puis voilà que je me suis fait un beau poulailler. Mais vous croyez, Ziti, vous, que des poulets, ça peut prospérer sur une étoile, Mr. Rafferty ? Rafferty leva involontairement les yeux vers le ciel et glissa aussitôt dans la boue. Sur une quoi ? Je dis comme ça, sur une étoile. Mr. Alsop était parvenu à la porte de la grange et s'efforçait de l'attirer. Elle colle, fit-il. Rafferty la poussa de l'épaule et la porte roula sur ses galets. Dès qu'elle se fut écartée d'un pied, Rafferty jeta un coup d'œil à l'intérieur et acquit la conviction qu'il tenait son article. L'objet, entreposé à l'intérieur, avait l'air d'un ballon géant en matière plastique à moitié gonflé, si bien que le sommet était en forme de coupole et que la base aplatie reposait sur la paille éparse à terre. Il était juste de taille à passer par la porte. Évidemment, c'était la réalisation de l'idée qu'un farfelu pouvait se faire d'un appareil à naviguer dans les espaces interstellaires. Un titre lui traversa l'esprit, à composer en Bodoni 36. un fermier de chez nous construit une fusée pour aller dans la Lune. Mr. Alsop, questionna-t-il plein des soirs, ce ne serait pas vous qui auriez bâti ce truc-là, non ? Mr. Alsop eut un bon rire. Oh non, c'est pas moi qui ai fabriqué ça. Je saurais pour fabriquer un machin pareil, voyez-vous. C'est à des amis à nous, ils sont venus là-dedans. Bon sang, je saurais pas seulement le faire marcher, moi. Rafferty scruta intensément le visage du bonhomme et s'assura qu'il était parfaitement sérieux. Ces amis à vous, demanda-t-il prudemment, qui est-ce exactement ? Eh ben, vous allez trouver ça drôle. Mais ne sait pas trop bien. Il cause pas comme il faut, il cause même pas du tout. Tout ce que nous avons pu en tirer, c'est qu'il s'appelle comme quand on tape sur du fer avec un marteau. Rafferty avait entrepris de faire le tour de l'objet inconnu et s'en rapprochait graduellement. Il se cogna soudain contre un obstacle invisible. Il cria « Aïe !» et se frictionna la cheville. « Hé, monsieur Rafferty, j'avais oublié de vous dire. Ils ont mis un truc qui empêche d'approcher, comme qui dirait un mur qu'on ne pourrait pas voir. C'est pour empêcher les gamins. » « Mais ses amis, Mr. Alsop, où sont-ils en ce moment ?»« Où ils sont ? À la maison, tiens. Vous pouvez venir les voir si vous voulez, mais je crois que vous aurez du mal à leur causer. »« Des Russes ? Oh, ma foi, non, je crois pas. Ils n'ont pas de bonnet à poil. »« Allons voir ça, » murmura Rafferty, qui reprit le chemin de la maison à travers la boue de la cour. « Ils sont venus la première fois, ça fait comme qui dirait 6 ans, » déclara Mr. Alsop. « Ils voulaient des œufs. Ils pensaient comme ça qu'ils pourraient peut-être élever des poules là-haut où ils demeurent. » Leur faut 3 ans pour rentrer chez eux, alors bien sûr, les œufs se sont gâtés en route. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens ? Demi-tour, allez, et ils sont revenus. Cette fois, le père Alslop leur a fabriqué un genre de petite couveuse pour qu'ils puissent élever leurs poussins tout en rentrant chez eux. Il eut de nouveau son bon rire. Je la vois d'ici, tiens, ma petite couveuse dans le ciel, toute grouillante de petits poussins. Rafferty passa le premier par la porte de derrière et entra directement dans la cuisine. Mr. Alsop l'arrêta avant qu'il pénétrât dans la pièce commune. « Attendez voir, Mr. Rafferty. Ma femme, elle sait mieux leur causer que moi à ces gens. Alors demandez-lui plutôt à elle tout ce que vous voudrez savoir. La dame et ma femme, elles s'entendent ma foi pas mal. »« Ok, » fit Rafferty. Il poussa gentiment Mr. Alsop devant lui, se disant qu'il jouerait le jeu, qu'il ferait idiot. Mrs. Alsop était assise dans son fauteuil près d'un poêle portatif. Rafferty vit les deux visiteurs assis côte à côte sur le canapé. Il les vit agiter délicatement leurs longues antennes flexibles. Il vit leur visage bleu lavande, aussi peu expressif que des objets de verre. Il vit les yeux ronds qui paraissaient peints. Il se cramponna au chambranle de la porte et ouvrit lui aussi les yeux ronds. Mrs. Aslop se retourna vers lui, rayonnante. « Mr. Rafferty, dit-elle, les voilà, ces personnes qui sont venues nous voir dans ce fameux avion. » Elle leva un doigt et les deux personnes inclinèrent leurs antennes dans sa direction. « C'est Monsieur Rafferty, » poursuivit Mrs. Alsop. « Il écrit sur les journaux. Il voudrait voir votre aéroplane. » Rafferty parvint à esquisser un signe de tête. Les visiteurs enroulèrent leurs antennes et s'inclinèrent poliment. La femme se gratta soudain le flanc avec une de ses pinces. Dans le crâne de Rafferty, quelque chose allait répétant « Tu n'es pas idiot, Rafferty, tu n'es pas idiot, on ne te la fait pas. Quelqu'un est en train de lancer un coup de publicité, un coup astucieux, un coup formidable. Quelqu'un t'a fait venir pour se payer ta tête, ou bien alors tu es fou, ou tu es ivre, ou tu rêves. » Il se força cependant de conserver un ton ordinaire. « Comment dites-vous qu'il s'appelle, Mrs. Aslop ?»« Mon fou, on n'en sait trop rien. Voyez-vous, ils savent que vous faire quelque chose comme des dessins dans la tête. Ils pointent sur vous ces drôles de cornes qui remuent et ils pensent, tout simplement. Ça vous fait penser aussi. » Ça vous fait penser la même chose qu'eux. La première fois, je leur ai demandé comment ils s'appelaient et je les ai laissés penser. Et tout ce que j'ai vu, c'est une image, comme un homme qui bat du fer sur une enclume. Alors moi, je crois qu'il s'appelle quelque chose comme l'homme qui bat du fer. C'est peut-être bien une espèce de nom pour rouge. Rafferty considéra malicieusement les batteurs de fer et Mrs. Alsop. Croyez-vous, fit-il d'un air innocent, qu'il voudrait parler avec moi ou penser avec moi ? Mrs. Alsop parut embarrassée. Oh, il ne demanderait sûrement pas mieux, Mr. Rafferty. Seulement, voilà, c'est dur, au moins pour commencer. Dur pour vous, je veux dire. Tant pis, je vais essayer, déclara Rafferty. Il tira une cigarette et l'alluma. L'allumette enflammée demeura entre ses doigts jusqu'à ce qu'elle les brûle. Jetez la dent dans le soie à charbon, lui dit Mr. Alsop. Rafferty, docile, jeta l'allumette dans le soie à charbon. Demandez à ces machins, à ces gens, enfin, d'où viennent-ils ? Oh, c'est pas une question commode, expliqua Mrs. Alsop, toujours souriante. Je leur ai déjà demandé, ça. Ça n'a pas fait grand-chose comme dessin dans ma tête. Enfin, on peut toujours leur redemander. Elle leva le doigt et les deux antennes s'inclinèrent dans sa direction, se braquèrent directement sur son front. « Le jeune homme, » articula-t-elle très haut, comme si elle parlait à des sourds, « il voudrait savoir d'où vous venez comme ça, vous deux. » Elle administra un coup de coude au journaliste. « Levez votre doigt pour qu'il vous réponde. » Rafferty se sentit l'air d'un parfait imbécile, mais leva le doigt. La femme, dont le mari battait le fer, courba son antenne jusqu'à ce qu'elle le visa entre les deux yeux. D'un geste involontaire, il s'arc-bouta contre le montant de la porte. Mais soudain, il éprouva l'impression que son cerveau était devenu du caoutchouc et qu'on le tordait, qu'on le malaxait, qu'on le martelait jusqu'à lui faire perdre sa forme, puis qu'on en refaisait autre chose de tout à fait neuf. Terrorisé, il se sentit devenir aveugle. Il volait à travers l'espace, à travers un immense vide blanc. Des astres, des météores filaient à toute vitesse. Puis, une étoile géante, au scintillement éblouissant, s'imposa un moment à son esprit, puis s'éclipsa. Le cerveau de Rafferty fut libéré, mais il s'aperçut qu'il tremblait, cramponné au chambranle. Sa cigarette allumée se consumait toute seule sur le plancher. Mr. Alsop se baissa pour la ramasser. « Tenez, Mr. Rafferty, votre cigarette. Alors, ils vous ont répondu ?» Rafferty est devenu très pâle. « Mr. Alsop, Mrs. Alsop, c'est vrai? Ces créatures viennent réellement de là-bas? De l'infini ?»«
Ça, pour sûr, elles viennent de loin, » opina Mr. Alsop.
« Mais comprenez-vous ce que cela veut dire ?»
Il sentit que sa voix déraillait et fit un effort pour conserver son calme. « Comprenez-vous que c'est le fait le plus sensationnel qui soit produit dans l'histoire de l'univers ? Savez-vous bien que c'est, certainement, c'est l'affaire la plus formidable ? Et c'est à moi, Rafferty, qu'elle arrive !»
Il avait beau essayer de se contenir, il hurlait. « Le téléphone ! Où est votre téléphone ?»«
Le téléphone ? Oh, on n'a pas le téléphone. Par exemple, il y en a ben un au poste d'essence, mais ils vont s'en aller d'ici un moment. Restez donc, vous les verrez partir. Les œufs, la couveuse, le grain, tout ça est déjà embarqué dans leur mécanique.
« Oh non, non, non !» cria Sarah Fierty, suffoquant. « Non, non, ils ne peuvent pas s'en aller avant un moment. Écoutez-moi, il faut que je téléphone, il me faut un photographe. »
Mrs. Alsop eut son placide sourire. « Pensez, Mr. Rafferty, nous avons pas essayé de les garder à niner. Mais il faut qu'ils s'en aillent à une certaine heure. Comme il dirait, il faut qu'ils profitent de la morée. »«
C'est la lune, » expliqua Mr. Alsop doucement. « C'est rapport à ce qu'il faut que la lune se trouve au bon endroit. »
Les visiteurs de l'infini demeurèrent discrètement assis, leurs pinces croisées sur ce qu'il leur servait de genoux. Leurs antennes joliment roulées pour bien montrer qu'ils ne se permettaient pas de lire dans la pensée des gens. Rafferty promena un regard angoissé autour de la pièce, cherchant un téléphone qu'il savait ne pas s'y trouver. Joe Pegley, au secrétariat de la direction. C'est Joe Pegley qu'il fallait toucher, coûte que coûte.
Mais non, non, Joe Pegley dirait simplement
« Bah, t'es sous, mon vieux. »
« Mais c'est la plus formidable affaire du monde, la plus formidable affaire du monde. Et tu restes planté là, tu restes... »
Oh, ces mots tournoyaient dans la tête de Rafferty qui éclata. « Alsop, écoutez-moi, vous avez un appareil photo. N'importe quel appareil photo. Il me faut un appareil photo. »
« Un appareil photo, » répéta Mr. Alsop plein d'obligeance. « Ah ça oui, j'ai un appareil photo, même que c'est un bon appareil. Un petit box, tout simplement, mais il fait des bonnes photos. Attendez, je vais vous montrer des photos de mes poules que j'ai prises avec.
Non, 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 je veux pas voir des photos de poules, je veux l'appareil. »
Mr. Alsop se dirigea vers le salon et Rafferty le vit fouiller vaguement sur le dessus de l'harmonium.
« Mrs. Alsop, » rugit Rafferty, « il faut que je leur pose des tas de questions. »
« Posez, posez, » fit Mrs. Alsop avec bonne humeur. « Ça ne les gêne pas. »
Mais que peut-on demander à des êtres venus du fin fond de l'univers stellaire ? On a leur nom. Bon, on sait qu'ils sont venus chercher sur la Terre des œufs de poule. On sait d'où ils viennent. Du fond du salon jaillit la voix plaintive de Mr. Alsop.
« Est-elle ? Tu l'as pas vu, mon appareil photo ?»
Mrs. Alsop soupira.
« Non, je ne l'ai pas vu. C'est bien que tu l'as rangé. »
De sans ennui, observa Mr. Alsop, cherchant toujours « C'est quoi un pot de pellicule ?» Soudain, les visiteurs de l'infini tournèrent un instant leurs antennes l'un vers l'autre, puis s'étant apparemment mis d'accord, se levèrent et se mirent à voltiger à travers la pièce avec une rapidité de luciole. Ils se déplaçaient si vite que Rafferty les voyait à peine. Ils franchirent brusquement la porte et se dirigèrent vers la grange. Tout ce que Rafferty put se dire consterné, c'est « Grand Dieu, ils sont à moitié insectes !» Il se rua cependant au dehors, galopa dans la boue vers la grange et il hurlait « Arrêtez ! Arrêtez-vous donc !» Mais il n'était pas à mi-chemin du bâtiment que le luisant ballon en plastique se faufila au dehors. Il y eut un léger sifflement et il disparut dans les nuages bas. Rien ne s'offrait plus à l'avide curiosité de Rafferty qu'un cercle roussi par terre et une faible vapeur qui s'élevait de la boue. Il s'y laissa tomber assis, avec au niveau de l'épigastre une douloureuse sensation de creux de vide, et dans son esprit l'idée que la plus sensationnelle affaire du monde venait de s'évanouir dans les airs. Pas de photos, pas de preuves, pas d'articles, le néant. Morne, il repassa dans son esprit les éléments qu'il avait recueillis. Monsieur et Madame Lochinvah du Fer. Il s'avisa soudain de ce que cela voulait dire. Smith, parbleu. Smith, l'homme qui bat le fer sur une enclume. Smith, évidemment. Alors là, il y a un astérix. Smith est, comme Johnson, un nom aussi répandu dans les pays anglo-saxons que Dupont l'est chez nous. Mais Smith signifie également forgeron. Monsieur et Madame Smith se sont rendus dimanche à la ferme d'Alfred Alsop. Ils ont regagné leur domicile dans le système d'Alpha du Centaure en portant deux colis d'œufs à couver. Il se releva lentement et secoua la tête. Il resta immobile, les pieds dans la boue, et soudain il plissa les yeux. On pouvait voir que le fameux cerveau de Rafferty fonctionnait, le cerveau de Rafferty d'où finissait par jaillir le papier. Il s'élança vers la maison et fit irruption par la porte de derrière. « Alsop » cria-t-il à tue-tête. « Alsop, est-ce que ces gens vous ont payé les œufs ?» Monsieur Alsop était grimpé sur une chaise devant le placard où Mrs. Alsop rangeait la porcelaine. Il cherchait toujours son appareil photographique. « Ah mais oui, en un sens, fit-il, ils ont payé. Faites-moi voir leur argent !» implora Monsieur Rafferty. « Oh, mon pas payé avec de l'argent !» De l'argent, n'en ont pas, voyez-vous. Mais quand ils sont venus la première fois, il y a 6 ans de cela, ils nous ont apporté des œufs de chez eux, comme qui dirait pour faire un échange.
6 ans, Jimmie Rafferty.
Puis il tressaillit. Des œufs? Quelle sorte d'œufs? Mr. Alsop eut un petit gloussement.
Ce que je sais, moi, on a dit, Ethel et moi, que c'était des œufs de canard d'étoile. Ils étaient en forme d'étoile, leurs œufs.
Enfin, on les a donnés à couver une poule. Vous pouvez pas vous figurer comme leur pointe la tracassait, cette pauvre vieille poule. C'était quelque chose. Mr. Alsop descendit lentement de sa chaise. « Entre nous, les canards d'étoiles, ça vaut pas grand-chose. Ça ressemble à une espèce de petit popotame. Ça ressemble aussi à une hirondelle, seulement ça a 6 pattes. Il y en a que 2 qui sont venus à bien. On les a mangés pour Thanksgiving Day. »
Le cerveau de Rafferty travaillait toujours, quittant désespérément l'indice, le bout de preuve qui convaincrait son rédacteur en chef, qui convaincrait le monde.
Il se pencha sur le bonhomme et murmura presque. « Mr. Alsop, vous ne sauriez pas par hasard où sont les squelettes de ces canards d'étoiles ?»
Mr. Alsop parut perplexe. « Les
Ah, vous voulez dire les os ? On les a donnés aux chiens. Ça fait 50 ça. Oui, le chien, il est mort aussi à présent. Par exemple, je sais où sont ses os, à lui. »
Rafferty prit son chapeau comme un homme en transe. « Merci, Mr. Alsop, » fit-il vaguement. « Merci bien. » Il sortit sous le porche, mit son chapeau sur sa tête, il le repoussa en arrière, il leva les yeux vers les nuages. Il fixa les yeux sur les nuages jusqu'à se sentir étourdi, comme s'il s'enfonçait en vrille dans leur masse inconsistante.
Mr. Alsop rouvrit la porte et s'avança. De sa manche, il essuyait la poussière sur un petit objet carré. « Ça y est, Sir Rafferty, je l'ai retrouvé, l'appareil photo !»
Et voilà, c'est fini. À la prochaine !